entre nous soit dit, Pascal l'impensé, avec Laurent Thirouin. Martin Heidegger le notait, la célébrité est la somme des malentendus accumulés autour d'un nom. Plus un penseur devient célèbre, et plus sa pensée est réduite à une série de lieux communs, de slogans ou de mots d'ordre. Il en va ainsi pour Pascal, qu'il s'agisse de répéter que le moi est haïssable, que l'homme est un roseau pensant ou qu'il y a un pari pascalien comme il y a des dilemmes cornéliens. Mais dans le cas de Pascal, s'ajoute cette autre possibilité de méconnaissance dans la notoriété même, c'est que sa plus grande œuvre n'existe pas. Ce livre, que l'on a publié sous le titre de « Pensée de Pascal », est une collection de fragments posthumes que chacun peut s'empresser de recombiner à sa guise. Ainsi y a-t-il eu un Pascal janséniste, un Pascal très catholique, un Pascal romantique, un Pascal sceptique et beaucoup d'autres, selon la pioche et l'interprétation hâtive de l'éditeur ou du lecteur. À travers ses pensées elles-mêmes, Pascal peut donc rester impensé, caché, comme une vedette de la philosophie sous les multiples clichés conceptuels dont on l'a recouvert. Nous allons cependant essayer de penser un peu Pascal, ou avec Pascal, et pour cela nous avons aujourd'hui avec nous Laurent Thirouin. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de Lyon, auteur de nombreux ouvrages sur Pascal. Je ne citerai que le premier et le dernier, pour faire plus court. Le hasard et les règles, le modèle du jeu dans la pensée de Pascal, en 1991, qui avait reçu un prix de l'Académie française. Et tout dernièrement, Pascal ou le défaut de méthode, lecture des pensées selon leur ordre, et qui est apparu chez Honoré Champion. Alors, Pascal est un contemporain de Galilée et Descartes. Il connaît la nouvelle science de l'époque, qui est le mécanisme. Et donc, il va se passer chez lui, on pourrait dire, ce glissement dans le rapport à la nature. Lui-même dira que c'est une hardiesse désormais de vouloir prouver la divinité ou prouver Dieu par les ouvrages de la nature. Fulton Sheen disait que les anciens essayaient de nous faire aller vers Dieu à partir de l'extérieur, du cosmos, de l'ordre extérieur, et que les modernes ont eu plutôt la tendance à nous faire aller vers Dieu à partir des désordres intérieurs de l'homme. Est-ce que c'est ça le basculement qui s'opère chez Pascal, qui en ferait d'ailleurs le moderne par excellence, nous conduire vers Dieu, non plus vers l'ordre, et pas par l'ordre extérieur de la nature, mais à travers les désordres intérieurs de l'homme?
Mais ça me paraît assez vrai. En tout cas, il y a des prises de position très nettes de Pascal, qui ont pu d'ailleurs choquer, y compris des gens au XXe siècle. Ça consternait un petit peu Claudel, par exemple, cette incapacité à célébrer la nature, la création de Dieu. Mais Pascal affirme très clairement que donner à des incroyants la création divine comme une sorte de présence de Dieu, de possibilité d'accès à Dieu, c'était quelque chose d'impossible. Il a un texte donc, dans les pensées où il dit que rien n'est plus propre à donner mépris de la religion, que ça lui paraît à la fois logique et vérifiable. Et donc il y a cette évolution qui est probablement datable de la révolution mécaniste, de la science nouvelle, d'une science mathématisée et d'une acceptation que le monde ne soit plus symbolique.
Mais c'est-à-dire que le mécanisme, effectivement, n'a plus ce rapport où les choses de la nature sont des symboles de la divinité, nous renvoie finalement, le soleil serait comme un dieu ou comme le dieu de la nature, c'est ce que dit d'ailleurs le maître de Sassigne. Mais en même temps, il y a un mécanisme qui renvoie à Dieu, si on lit bien Descartes. Pour Descartes, quand même, l'animal est peut-être une machine, mais c'est une machine divine. Il y a une telle perfection perfection dans le mécanisme qu'on pourrait remonter vers Dieu. Alors pourquoi Pascal ne pourrait-il pas avoir une sorte de mécanisme qui correspond à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intelligent design, c'est-à-dire ouais. l'idée qu'il y a un tel ordre dans le mécanisme même qu'on puisse remonter vers un auteur du mécanisme, un Dieu artisan?
Ouais. Il faut répondre en plusieurs temps. D'abord parce qu'il importe essentiellement à Pascal que Dieu soit caché. Et il lui importe aussi d'accepter que les incroyants ne voient pas Dieu et de ne pas dire aux incroyants qu'ils ne voient pas Dieu parce qu'ils cherchent mal ou parce qu'ils ne veulent pas le voir ou parce qu'ils n'attachent pas assez de prix à la création qui les entoure. Donc, il y a déjà cette conviction théologique que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, est un Dieu caché, et non pas le Dieu des philosophes. Donc il importe qu'on ne puisse pas le voir aussi facilement. Ensuite, il est vrai qu'à la suite de Descartes, il est vrai que Pascal pense la possibilité de la machine, et il ne faut pas oublier que le texte qu'on appelle le Paris ne s'intitule pas le Paris. Le mot même de Paris, d'ailleurs, n'est pas prononcé dans le texte de Pascal. Oui. Lui, il avait intitulé « Infini rien », et il semble bien que c'est à ce texte-là qu'il fasse allusion un petit peu avant dans les pensées, quand il parle du discours de la machine. Et donc, l'argument « Infini rien » serait une sorte de machine d'augmentation. Il y a un très beau texte récent de David Rabourdin, consacré à la machine à espérer. Le pari comme une sorte d'augmentation de nos forces qui permet d'articuler sur une espérance, de donner plus de puissance à notre espérance.
Oui, le pari resterait, donc prendrait conscience d'un aspect du mécanisme, puisqu'en fait, ça se fonde sur un pari de jeu. Enfin de, mais derrière ça, il y a quand même, dans ce texte du pari, qu'est-ce que tu espères ? Est-ce que tu es prêt à espérer jusqu'au bout ? C'est ça. Ce serait voilà. Pas tellement l'idée qu'on joue et la question de Dieu serait liée à une sorte de simple intérêt particulier et à un jeu où on gagne à tout coup finalement si on accorde la foi, puisque si c'est comme le dit Pascal, hein, si je perds, je ne perds rien. Si je gagne, oui. Je gagne tout. Mais vraiment parce qu'il y a toujours cette dimension d'espérance à avoir.
Oui. Alors on a fait une petite erreur métaphorique qui n'a pas l'air très grave, et qui, à mon sens, est en fait problématique. C'est-à-dire qu'on a reconstruit l'idée du pari comme la possibilité de s'engager ou de ne pas s'engager, d'ailleurs de parier pour Dieu ou de ne pas parier pour Dieu, avec un argument qui consisterait à dire « Vous avez tout intérêt à parier pour Dieu, puisque s'il n'existe pas, il n'y a rien à perdre, s'il existe, il y a tout à gagner. » Donc, argument assez sommaire, et qui nous pose d'ailleurs un problème tout bête, c'est comment une pensée aussi sommaire, aussi peu subtile, peut-elle avoir acquis une telle importance dans l'histoire de la philosophie ? C'est-à-dire que si le pari, ça n'était que ça, pourquoi est-il auréolé hein, de cette gloire, le pari de Pascal ? Il y a des sites encore aujourd'hui de gens qui essayent de réfuter le pari, des gens qui disent que c'est un texte imbécile, mais si c'est à ce point un texte imbécile, pourquoi continue-t-on à en parler ? Donc il est évident qu'il se joue autre chose dans le pari. Et je vous disais, il me semble qu'il y a une petite erreur métaphorique, c'est que d'abord Pascal ne parle jamais du pari, et puis il a une formule en plein cœur de l'argument qui est une formule presque incompréhensible. C'est quand le géomètre a prouvé qu'il fallait jouer le jeu de Dieu, il dit « cela ôte tout parti ». Cela ôte tout parti, ça n'a pas beaucoup de sens dans notre langue à nous. Alors aujourd'hui, on trouve des notes dans les éditions qui vous disent « oui, parti, d'accord, c'était le terme spécifique utilisé par Pascal dans le calcul des probabilités qu'il avait fait avec Fermat et qu'il appelle la règle des parties. Parties écrit TI et pas TIE, qui veut dire des répartitions, des divisions, hein, qui vient du vieux verbe partir, qui veut dire diviser, faire une partition. Voilà. Et alors, pourquoi Pascal dit-il cela ôte tout parti ? Alors, qui veut nous dire cela ôte toute hésitation ? Il faut forcément faire ce jeu. Donc, si parti voulait dire décision, Il voudrait dire exactement le contraire ici, Pascal. Quand il dit cela ôte tout parti, il veut nous dire il n'y a plus à hésiter. Il faut vraiment continuer le jeu. Donc, comment résoudre cette question ? D'abord, le texte lui-même, le texte authentique, est connu depuis relativement peu de temps. Il était déjà difficile à comprendre à l'époque de Pascal. Il a été changé. On a édité pendant longtemps « Cela est tout parti », c'est-à-dire « Cela est tout réparti ». Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait clairement écrit dans les manuscrits « Cela ôte tout parti ». Brunschvicg est le premier à l'avoir vu. Il dit « Bon, je mets la leçon du manuscrit, mais elle est quand même un petit peu bizarre. Mais j'ai bien vérifié, c'est ça. » Alors, j'arrive à la réponse. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que, pour Pascal, c'est la question identique à celle que lui posait le chevalier de Méret dans... quelques années plus tôt, quand il avait développé la règle des parties. Et la question est la suivante. On est obligé d'accepter la métaphore du jeu.
Le chevalier de Méret qui était un mondain, un joueur, justement.
Voilà, le chevalier de Méret, un honnête homme, quelqu'un qui se vantait d'avoir converti Pascal à l'honnêteté, l'avoir transformé du statut de géomètre un peu aride en... d'avoir développé son esprit de finesse, de lui avoir montré que l'esprit de finesse existait et qu'il n'y avait pas que l'esprit de géométrie. En gros, c'est ce que dit Méret. Mais Méret avait... poser un problème aux mathématiciens qui est un problème de joueur. Et le problème est le suivant, on est obligé d'entrer un peu dans les détails. Quand il y a un jeu de hasard qui est un peu long et qu'on n'a pas le temps de le terminer, il y a des mises sur la table, il faut arrêter le jeu. Que fait-on des mises ? On les répartit entre les joueurs. Le problème, c'est que les joueurs n'ont pas l'un et l'autre, c'est un jeu entre deux joueurs, la même chance de gagner. Il y en a un qui a presque gagné, et l'autre qui est assez loin de la victoire. Comment va-t-on répartir les mises ? Alors, on pourrait tout donner à celui qui est le plus avancé. Mais l'autre dira, non, c'est un jeu de hasard, peut-être que tous les coups qui vont venir, c'est moi qui gagnerai. Donc on pourrait aussi tout partager, moitié-moitié. Alors celui qui est avancé va dire, non, pas question, parce que je suis quand même beaucoup plus près de la victoire. Donc nous, qui connaissons les probabilités, on sait très bien qu'il y a une répartition des mises.
C'est un point très important, parce que je me rends compte qu'avec mes enfants, c'est une question qui se pose. Souvent, on interrompt des parties de Dixit ou de Trivial Poursuite. Vous voyez, on se dit, c'est celui qui est le plus avancé qui a gagné, mais en fait, pas forcément, parce que d'autres auraient pu le dépasser.
Voilà. Donc, vous voyez, le joueur demande aux mathématiciens, au géomètre, Pascal, est-ce que vous pourriez nous sortir d'affaire en nous disant la répartition juste qu'il faut faire des mises ? Et c'est ça le parti d'un jeu. Le parti d'un jeu, c'est qu'est-ce qui va permettre en toute justice à quelqu'un de quitter le jeu sans être floué ? C'est d'avoir pris exactement ce qu'il était en droit d'espérer compte tenu de l'évolution du jeu. Alors, je suis très très long, mais en fait, je crois que c'est important parce que ça impose de changer le regard qu'on a sur le texte qu'on appelle le pari de Pascal, qui s'appelle pas le pari. En fait, il s'agit d'un jeu qui est en cours. Il s'agit de la question de savoir, voulez-vous ou non quitter ce jeu ? Voulez-vous abandonner ce jeu ? Donc, non pas entrer dans un jeu, mais quitter un jeu qui est en train de se jouer. Et là, pas de problème, le mathématicien est là, il a justement... essayer de calculer ce à quoi avait droit quelqu'un qui quittait un jeu, compte tenu de la mise qu'il avait faite et compte tenu des espoirs de gain qu'il avait. Mais le problème, c'est que compte tenu du jeu spécifique qui est le jeu du fragment infini rien, compte tenu de l'intervention de l'infini, l'intrusion de l'infini dans cette histoire, le géomètre est obligé de faire forfait et de dire qu'il ne peut pas calculer de partie, qu'il n'y a pas de partie. Si vous quittez le jeu, vous n'aurez pas de parti à prendre, vous partirez avec rien. Cela ôte tout parti, ça veut dire très précisément pour Pascal, quitter le jeu, c'est accepter d'échanger une espérance contre exactement rien. Donc là, on voit que brusquement la logique existentielle de ce texte a changé. Car il y a une bizarrerie dans le pari, c'est que Pascal parle tout le temps de l'imprudence. Or, l'imprudence en termes de jeu, c'est toujours de ne pas jouer. Il est toujours plus prudent de ne pas jouer un jeu de hasard que d'y jouer. Et même un jeu de hasard très avantageux, il serait plus prudent de ne pas y jouer si on était vraiment très prudent. Et si je propose à quelqu'un de miser 20 euros et qu'il a une chance sur deux de gagner 400 euros, on peut dire que c'est un jeu très avantageux pour lui. Mais s'il veut être sûr de ne pas perdre ses 20 euros, il ne faut pas qu'il joue, car il a quand même une chance sur deux de les perdre. Donc la prudence est toujours de ne pas jouer. Mais là, on est en train de jouer. Le jeu a déjà commencé. Mmh. Et il me semble que c'est assez important, ça. L'erreur qu'on a faite, c'est d'imaginer que Pascal proposait d'entrer dans un jeu. Or, il s'interroge sur ce qui se passe quand on en sort.
Donc l'enjeu, c'est ici, c'est de comprendre que d'une certaine façon, on est déjà pris dans la trame de l'espérance, dans la trame de la recherche, parce qu'on retrouverait ce grand thème augustinien, mais enfin plus ancien, aristotélicien, tout homme cherche de toute façon un souverain bien.
Ouais.
Donc il s'agit de s'engager dans cette recherche radicalement, c'est ça?
Alors il s'agit de savoir quelle est exactement notre espérance. Qu'est-ce qu'on veut bien suivre comme espérance? Et ça me paraît de plus en plus un élément crucial de la pensée de Pascal. Et une de ses importances, y compris pour nous aujourd'hui, c'est mettre directement quelqu'un devant son espérance. Demander, le faire prendre conscience de ce en quoi il espère. Et le pari, l'abandon du jeu, celui qui ne veut pas participer à ce jeu, qui accepte de remplacer une espérance, quelle qu'elle soit, par du rien, et celui qui a effectivement choisi le rien. Il faut lui faire dire, ce que vous voulez, c'est donc rien. Vous l'aurez. Il y a un très joli, ça m'avait frappé, j'étais tombé sur un passage de Verlaine dans Sagesse. On lit plus tellement, enfin on lit quelques poèmes de Sagesse. Celui-là ne fait pas partie de ceux qu'on lit. Et Verlaine, qui à ce moment-là, temporairement, est chrétien, puisqu'il a fait beaucoup d'allers-retours, parle des chrétiens en disant « Nous qui mettons notre espoir en l'espérance ». Ce qui paraît une espèce de tautologie inepte et qui me semble avoir beaucoup de sens. C'est-à-dire que si on ne met pas son espoir en l'espérance, en quoi met-on véritablement son espoir? Et je crois que le texte du pari a pour fonction essentielle de faire prendre conscience à quelqu'un qu'il a choisi la mort plutôt que la vie, ou qu'il a choisi de ne rien attendre. Choisir de ne rien attendre, il y a un risque, c'est le risque d'être exaucé, risque de ne rien trouver. Et d'une certaine façon, le pari vous dit, puisque vous ne voulez rien, vous risquez d'avoir exactement ce que vous voulez, à savoir rien. Et donc, il y a une sorte d'imprudence essentielle à ne pas accepter une espérance, pas accepter de courir pour une espérance.
Alors, on a dit que pour Pascal, curieusement, paradoxalement, il faut que Dieu se cache. Parce que le danger ici, ce serait que on ne rencontre pas Dieu parce que ce ne serait que le résultat d'une démonstration et pas justement celui qu'on rencontre. Il ne faut pas que ce soit quelque chose, même une cause première qui serait le Dieu des philosophes, mais d'abord ce Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, dont il parle dans le mémorial, qui est celui qu'on rencontre. Donc Dieu doit se cacher parce qu'il ne faut pas qu'on y arrive par mode de démonstration, d'une certaine façon. Il s'agit toujours d'un désir, d'une recherche, puis d'une rencontre.
Voilà, c'est essentiel, évidemment. Le Dieu qui se cache, c'est le Dieu qui demande qu'on le cherche, et c'est la qualité de la recherche. Il y a un texte des Pensées dans l'aide pour porter à chercher Dieu, où Pascal parle de chercher de tout son cœur. La qualité même de la recherche donne la valeur de ce que l'on risque de trouver. Le Dieu qu'il s'agit de rencontrer est un Dieu qu'il faut avoir cherché. C'est un Dieu qui est un objet d'amour et pas un objet de connaissance. Et donc, le fait qu'il ne se donne pas à voir, qu'il ne s'impose pas, le constitue comme objet d'amour.
Alors, à cause de ça, Pascal va avoir tendance à s'opposer à des preuves de Dieu qui sont traditionnelles. Bon, on a dit la preuve cosmologique, l'idée de partir de la nature, de l'ordre de la nature, pour remonter vers Dieu, vers un suprême ordonnateur. Donc, il va casser d'une certaine façon cela. Et il va dire, il va insister aussi sur cette impuissance de l'homme, cette misère de l'homme. C'est ça qui lui a valu sa réputation d'être sceptique, d'être le terrible Pascal ou l'effrayant Pascal, comme dit Chateaubriand. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Pascal est d'abord l'homme de la misère de l'homme sans Dieu, de telle sorte qu'on est forcé, qu'il veut nous forcer à la recherche, mais en disant que ça ne va pas? Donc il va insister sur le fait que ça ne va pas.
Voilà. Donc c'est important. C'est une image qui s'est progressivement accréditée, parce qu'il y a en effet des pages somptueuses de Pascal qui sont des pages inquiétantes. parce qu'on est très frappé par les deux infinis, par la disproportion de l'homme qui a perdu son lieu dans l'univers. La transformation du cosmos en un univers infini fait que l'homme n'a plus de repères, il est disproportionné. En fait, le texte qu'on appelle Les deux infinis est intitulé par Pascal Disproportion de l'homme. Il est en dehors de toute proportion. Et donc ça parle à une sorte de désir romantique de la catastrophe que l'on porte toujours vaguement en soi.
Mais aussi une stratégie. Luc Ferry me disait un jour, ah oui, vous, les chrétiens, vous éprouvez le besoin de noircir ce qui se passe sur Terre pour nous faire désirer le ciel.
Voilà, voilà. Et alors, une lecture attentive, je continue, ah oui, la question importante que vous posez, une lecture attentive de Pascal force à considérer l'énorme importance de la grandeur dans l'anthropologie de Pascal. Car le projet...
La grandeur de l'homme.
La grandeur de l'homme, oui. Le projet central de Pascal, c'est de rendre l'homme énigmatique. Il ne faut pas pour lui le rendre désastreux, le rendre pitoyable, nous faire fuir dans la religion comme une espèce de, enfin, d'alternative au malheur. Non, il s'agit plus exactement de construire l'énigme dans toute sa consistance énigmatique pour qu'il y ait besoin d'une réponse adéquate, qui pour Pascal ne peut être que la réponse à la religion, mais ça il ne le dit pas au départ. Donc construire l'énigme, ça impose de montrer l'homme à la fois grand et misérable. Et donc d'insister autant sur ce qui est pathétique en l'homme que sur ce qui est efficace, ce qui fonctionne, y compris même quand cela peut nous paraître critiquable. Prenons un exemple tout simple, qui est celui du divertissement, puisque le divertissement est un thème qui est très souvent évoqué à propos de Pascal. C'est en effet une très belle idée de Pascal, quelque chose à quoi il a attaché son nom. Mais les gens sont parfois surpris quand on leur dit la pensée de Pascal n'est pas une condamnation du divertissement, c'est pas une critique essentielle du divertissement. C'est-à-dire que ça dépend des moments, ça dépend des lieux. Pascal parle du divertissement à beaucoup d'endroits. Il en parle dans une liasse qu'il intitule Vanité, il en parle dans Misère, mais il en parle aussi dans Raison des effets, il en parle dans Grandeur. Donc, Pascal se moque des gens qui se divertissent, mais il se moque aussi des gens qui se moquent des gens qui se divertissent. Mmh. Hein ? C'est-à-dire qu'il est très sensible à l'efficacité du divertissement. Et il va même assez loin à un moment, c'est-à-dire que le divertissement pourrait être une très bonne solution. Le divertissement pourrait suffire à assurer le bonheur sur cette terre. Mais alors, il a une réponse qui est toute bête, toute simple, très, très violente, mais les maladies viennent. Les maladies viennent. Donc, pour lui, la seule objection au divertissement, c'est la maladie. En fait, il tient au divertissement pour l'opposer à l'idéal stoïcien. Le stoïcien s'imagine qu'il va trouver en lui la possibilité d'échapper au malheur, c'est-à-dire que s'il arrive à être totalement autonome, s'il arrive à être totalement autosuffisant, contentus se, il ne craindra plus rien. Et pour Pascal, il est important de montrer que cet idéal stoïcien est voué à l'échec. Mmh. Et justement, le divertissement, la définition qu'il donne du divertissement, c'est chercher le bonheur dans le dehors, chercher le bonheur hors de soi. Et ce n'est pas une mauvaise solution. Le problème, c'est qu'on ne peut pas durablement trouver le bonheur hors de soi. Donc il s'agit de trouver une solution au bonheur qui serait quelque chose ni dedans, ni dehors, donc un idéal du souverain bien qui a été construit par le divertissement. Mais j'ai un petit peu glissé dans ma réponse.
Oui.
Il est important de voir que Pascal ne condamne pas le divertissement ou ne passe pas son temps à abaisser l'homme, et au contraire, dans beaucoup de pensées, il s'arrête sur la grandeur de l'homme, l'efficacité de ses constructions, la présence en lui d'un appel qui montre que quand bien même il se percevrait comme déchu, le simple fait qu'il se perçoive comme déchu montre qu'il vient d'en haut.
Donc, c'est-à-dire que la misère et la grandeur ne sont pas juxtaposées, c'est-à-dire on pourrait pas, il n'y a pas une partie misère et une partie grandeur. Il y a misère et grandeur, mais il y a misère car grandeur, c'est-à-dire que pour se sentir déchu, il faut qu'on soit un roi, et un roi découronné, comme il le dit.
Voilà. Oui, tout à fait. À d'autres moments, Pascal écrit pour savoir qu'on a perdu, il faut voir et ne voir pas. C'est-à-dire que toute perte est une forme paradoxale de possession, et le sentiment intérieur en nous que l'on est tombé d'un lieu plus élevé, que l'on a perdu quelque chose, ce sentiment est constitutif d'une grandeur. Alors d'une grandeur vue d'une manière peut-être un petit peu affligeante, mais d'une grandeur réelle. Il y a d'autres grandeurs plus directes. Il y a des grandeurs dans l'organisation de la cité. Il y a la capacité de l'homme à construire un ordre social qui fonctionne, à construire un ordre politique qui est un ordre à la fois humiliant parce que mal fondé, mais un ordre qui est susceptible d'éviter de la violence. Éviter de la violence, c'est quelque chose d'important. Et quand le demi-habile vient dire « les lois sont mal fondées », Pascal répond, en tout cas l'habile répond, Pascal fait répondre à l'habile, « oui, mais enfin, les lois, leur seule puissance, c'est d'être des lois, elles le font assez bien, et tant qu'elles sont lois et qu'on ne s'interroge pas sur leur fondement, ben, elles arrivent à éviter la violence, les guerres civiles, qui sont le plus grand des maux. »
Alors, je voudrais revenir sur une parole qu'on trouve dans l'entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy, où justement il va au-delà du fait de peindre Dieu dans ses ouvrages, dans de la preuve cosmologique, et il dit que il est plus juste de considérer donc Dieu dans les productions des esprits, les efforts qu'ils font pour imiter la vertu essentielle, même en la fuyant. Donc, on a l'impression que chez Pascal, il faut qu'il y ait l'athéisme, d'une certaine façon. Il faut qu'il y ait ce qu'il appelle d'ailleurs, il parle du monde comme un lieu ouvert au blasphème, parce que même en fuyant, même par le divertissement, finalement, on atteste quelque chose de notre désir de Dieu. Après tout, si nous n'étions pas faits pour quelque chose de plus grand, nous n'aurions pas à fuir de cette manière-là. Nous ne nous épuiserions pas dans des vanités. Aucune bête, par exemple, ne va vers la vanité. C'est comme si, d'une certaine façon, l'expérience même de la vanité, l'expérience même de cette fuite sans fin vers des choses qui sont toujours de plus en plus stupides, montre que nous ne pouvons pas tenir simplement à ce qui est fini, et c'est l'infini lui-même qui nous fait passer d'une idole à l'autre, la briser, sans cesse changer, c'est ça.
Oui. Dans un texte qui est un des textes les plus abordables des pensées, qui est intitulé par certains éditeurs « La lettre pour porter à chercher Dieu », et qui est numéroté par Philippe Sellier en livre de poche, en numéro 681, on trouve bien exprimé ce que vous êtes en train de dire, c'est cette sorte de monstruosité de l'incroyance est pour Pascal, paradoxalement, un signe indirect de Dieu. C'est une chose monstrueuse de voir, je cite Pascal, dans un même cœur et en même temps, cette sensibilité pour les moindres choses et cette étrange insensibilité pour les plus grandes. Cette espèce de maladie de la sensibilité qui fait que quelqu'un pourrait être très très attentif, je ne sais pas moi, à la forme de ses chaussures, est totalement inintéressé par la question de Dieu. Et pour Pascal, c'est quelque chose de tellement monstrueux qu'il continue, c'est un enchantement, donc un enchantement au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire un sortilège, c'est un enchantement incompréhensible et un assoupissement surnaturel qui marque une force toute puissante qui le cause. Il faut qu'il y ait un étrange renversement dans la nature de l'homme. Il faut presque qu'il y ait Dieu. C'est-à-dire que cette incapacité à se poser la question de Dieu ne peut s'expliquer que par Dieu. Il y a une telle incohérence dans cet homme, il y a un tel manque de souci de son bonheur, ou une telle résignation à son malheur, qu'on ne peut pas le concevoir sans une forme d'aveuglement qui serait une marque indirecte de Dieu.
Une bête ne peut pas avoir, par exemple, l'obsession des belles chaussures anglaises, on peut supposer ça. Et en fait, c'est parce que nous avons besoin, d'une certaine façon, de rendre un culte. Il y a ce passage de Pascal de mémoire où il dit, en gros, à partir du moment où on abandonne le vrai Dieu, on ne devient pas à proprement parler athée, mais on ne cesse de multiplier les idoles et on se met à rendre un culte. On peut rendre un culte à n'importe quoi. jusqu'à, il parle même du poireau dans ce passage-là. Mais bon, donc on peut avoir une idolâtrie de n'importe quoi, une idolâtrie qui aura cette caractéristique d'être instable, puisqu'on passera facilement à autre chose, ça ne peut pas tenir toute une vie humaine, d'où le divertissement aussi. Mais d'une certaine façon, l'homme qui, tout en étant un homme, peut consacrer sa vie à acheter de très belles chaussures, en fait, montre qu'il est fait pour rendre un culte. Et on voit par son ridicule que c'est vers autre chose que les chaussures que ça devait aller.
Oui. Et donc il y a ce côté étrange qui fait que Pascal perçoit le Dieu caché aux endroits où Dieu est même plus que caché, puisqu'il est refusé, et peut-être même plus que refusé. Il n'est pas question qu'il soit question de lui.
Vous prenez parfois l'exemple de ces corps célestes qu'on suppose, c'est ça ?
Oui, par exemple. Donc c'est pas un exemple qui est pris par Pascal, mais il nous aide à penser les choses. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a des phénomènes, et on a pendant longtemps, c'est arrivé à plusieurs reprises, on a postulé, les scientifiques n'arrivaient pas à distinguer dans leur télescope, qui n'était pas encore capable de le faire, des corps célestes ou des planètes, qu'ils étaient obligés de mettre pour rendre compte de phénomènes qui n'avaient pas sinon d'explication. Et donc, Dieu existe dans les pensées comme celui qu'on ne voit jamais, mais sans qui rien n'aurait de sens.
Et qui même permet d'expliquer les phénomènes les plus aberrants et les plus athées, finalement.
Voilà. Et avec ce paradoxe peut-être un petit peu à la limite du sophisme, mais très efficace chez Pascal, c'est la présence d'un Dieu qui se cache, car faire accepter à quelqu'un que Dieu est caché, c'est lui faire dire malgré lui que Dieu est là. Car pour être caché, il faut déjà être là. Donc, ce Deus absconditus, l'expression reprise à Isaïe, et que Pascal cite à plusieurs reprises, ce Dieu caché est évidemment un Dieu présent. Alors, il est présent il est présent sans qu'on le voit jamais. Dire caché, c'est dire existant, bien entendu.
Mais est-ce que même on pourrait dire que le fait de se cacher pour Dieu, chez Pascal, c'est aussi sa manière de se donner, non pas dans un rapport de force, mais dans l'amour ?
Oui.
Puisque s'il se déclarait comme le Dieu tout-puissant à partir de phénomènes écrasants, on se jetterait à ses pieds, mais pour les mauvaises raisons, comme les démons d'ailleurs se jettent aux pieds de Jésus, les démoniaques. Là, ce serait, il se cache, c'est un don pour libérer l'espace de cette recherche avec le cœur, c'est
tout
ça ?
Tout à fait. C'est vraiment au cœur de la conception de Pascal, de cette conception importante d'un terme qui a l'air tout simple, mais qu'il faut comprendre dans la profondeur pascalienne, qui est chercher. Chercher, on a presque envie de le prendre dans le verbe latin, le quaerere, qui veut dire à la fois vouloir, aimer, c'est être tendu vers. Donc, chercher implique aimer derrière.
Et est-ce que c'est ça la raison du cœur chez Pascal ? Parce que le grand cliché, bien sûr, pascalien, c'est le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Bon, alors, est-ce que c'est ça la raison du cœur ? C'est-à-dire, on n'arrive pas à Dieu par démonstration, mais par cette recherche. C'est encore de la raison, mais c'est celle du cœur.
Oui. Alors le mot de cœur a fait couler beaucoup beaucoup d'encre. Il est très complexe chez Pascal. Il a sans aucun doute des connotations augustiniennes. Donc il est moins l'organe. C'est moins affectif que volontaire. Donc à travers la notion de cœur, Pascal interroge le vouloir, mais en tant qu'il nous échappe à nous. Je veux quelque chose. Je peux l'obtenir, je peux ne pas l'obtenir, mais pourquoi est-ce que je le veux ? Qui me fait vouloir ce que je veux ? Donc, le cœur, pour Pascal, c'est le centre même du vouloir. Donc, il n'y a là plus de différence du tout entre le vouloir et l'aimer. Et c'est une notion complexe, parce qu'on sent que dans la pensée de Pascal, elle concerne tous les éléments de l'esprit, y compris les éléments intellectuels. Pascal parle du cœur qui sent qu'il y a trois dimensions, alors que dans notre esprit, ce n'est pas tellement la raison d'être du cœur. Le cœur est aussi ce que l'on peut répondre aux pyrrhoniens, aux sceptiques, car on est dans la situation de ne pas pouvoir leur prouver des tas de choses sur lesquelles ils nous interrogent et qui ne nous gênent pas outre mesure. On ne peut pas leur prouver, par exemple, c'est un exemple que prend Pascal, pas leur prouver qu'on n'est pas en train de rêver, que je ne suis pas en ce moment en train de rêver, que nous discutons ensemble sur Pascal. Bon, je n'en ai pas la preuve absolue.
Enfin, notre auditeur, au moment où il va écouter cela, nous ne serons plus en train de discuter ensemble.
Voilà, alors, c'est vrai.
C'est lui qui rêvera qu'on discute ensemble en ce moment.
Mais donc, ça n'a jamais traumatisé personne. La question traditionnelle de la philosophie ou de l'idéalisme un petit peu radical, qu'est-ce qui nous prouve que le monde réel, le monde qui nous environne existe réellement? Qu'est-ce qui nous prouve que la vie que je suis en train de mener est la vie que je suis en train de mener et non pas un rêve qui se succéderait? Pascal, tout à fait en conformité avec son époque qui aimait beaucoup, beaucoup ses paradoxes, reprend ses idées en disant, si en effet, si je reprenais mes rêves chaque nuit, là où je les ai laissés la nuit précédente...
Je vivrais dans deux mondes.
Voilà, je vivrais dans deux mondes parallèles. Bon, mais en même temps, je reviens à notre question, c'est un faux problème, car nous savons très bien que nous ne rêvons pas, et ça c'est le cœur. Le cœur, pour Pascal, nous donne un certain nombre de certitudes...
Non démonstratives.
Non démonstratives, exactement. Non démonstratives, sur lesquelles on peut faire fond, mais dont on ne peut jamais véritablement rendre compte. Donc, c'est à la fois un savoir parfait et un savoir un peu insuffisant, car c'est un savoir impossible à transmettre, impossible à valider. Donc, on pourrait dire à la fois, ce serait parfait que l'on sache tout de cette façon-là, et en même temps, c'est une marque de faiblesse, parce qu'on ne peut pas transmettre ce savoir, on ne peut pas en convaincre quelqu'un, et si le cœur de quelqu'un d'autre ne lui donnait pas le même sentiment que mon cœur à moi me donne, je n'ai aucun moyen de lui dire qu'il a tort. Voilà. Donc c'est à la fois, ce cœur pascalien est une parfaite richesse, est une réponse suffisante au scepticisme, et en même temps, c'est quelque chose qui frustre les dogmatiques dans le débat que Pascal instaure entre le scepticisme et le dogmatisme, c'est qu'on se trouve en effet sans raison.
Oui, mais ça veut dire que ça n'est pas seulement contre les pyrrhoniens, c'est aussi contre Descartes. On a l'impression que Pascal récuse, on pourrait dire, l'apologétique cartésienne, puisque les méditations métaphysiques ont quand même pour objet de donner des preuves rationnelles de l'existence de Dieu, alors pas à partir de la cosmologie, mais enfin une autre forme de preuve, de l'immortalité de l'âme, avec un Dieu qui finalement ne se cache pas, mais qui apparaît avec évidence, une évidence subjective au terme du processus du doute hyperbolique, où on va même douter de ce qu'on est né réveillé ou pas. Est-ce que c'est pas cela que reproche Pascal, c'est-à-dire, de l'autre côté, pas simplement un contre des sceptiques, mais un contre du dogmatisme cartésien, qui voudrait un rapport trop méthodique à Dieu, donc beaucoup moins existentiel que Pascal, et puis qui, en plus, découvrirait Dieu comme le résultat d'une démonstration et pas comme une rencontre.
Oui, sans aucun doute. Et en plus, Pascal rajoute une difficulté qui me semble, mais alors vous connaissez mieux Descartes que moi, mais qui me semble quand même être peu pensable dans un cadre cartésien, c'est le rapport entre sentiment et fantaisie. Car bon, le sentiment est un peu, pour Pascal, le produit du cœur, une sorte de connaissance complète, connaissance immédiate, connaissance parfaite et en même temps insuffisante, voilà, celle dont on parlait tout à l'heure. Mais le problème, c'est que ce sentiment est à peu près impossible à distinguer de la fantaisie. Il y a une pensée où Pascal met les deux en rapport. Et c'est un type de raisonnement qu'on trouve assez souvent chez Pascal. On le trouve pour la loi naturelle. Pascal pense qu'il existe une loi naturelle, mais il pense aussi qu'on est dans une situation telle qu'on ne peut pas s'y référer.
Et oui, que tout le monde est capable de dire. Changée,
voilà.
Il parle de la nature comme d'une première coutume, parfois.
Voilà. Alors, Ça ne veut pas dire que Pascal, ce qui serait surprenant pour un chrétien, a fait son deuil de l'idée de loi naturelle inscrite en nous. Hein. De même que le sentiment est une véritable richesse en chacun de nous, est une capacité immédiate d'accéder à la vérité. Le problème, c'est que de la nature même du sentiment, il vient qu'on ne peut plus le distinguer de la fantaisie. Et que l'un dira que sa fantaisie est sentiment et que mon sentiment est fantaisie. Je cite à peu près la pensée de Pascal. Hein. Qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui vous dit que mon sentiment, qui est réellement un sentiment, à savoir qui est un vrai savoir direct et non discursif, est une fantaisie? Évidemment, je ne peux rien lui répondre. Donc, il n'y a plus cette capacité à discriminer la vérité et son imitation.
Et donc, à partir d'une méthode analytique ou démonstrative, c'est
voilà,
ça,
voilà,
c'est
voilà, plus voilà. Le cas. Il appartient au sentiment de ne pas pouvoir être prouvé. Donc, il est à la fois très puissant, très satisfaisant, très suffisant et en même temps très frustrant. Pour cette raison-là, car il est toujours susceptible d'être contredit. On peut mettre ça en comparaison avec un texte qui est fort connu et qui est souvent commenté par les philosophes, qui est le texte sur la force et la justice, où Pascal dit que la justice est contredite, alors que la force n'est pas contredite. Ça ne veut pas dire que la justice vaille moins que la force, mais il appartient à la justice, qualité spirituelle, dit Pascal, d'être toujours ouverte à la contradiction. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire à quelqu'un de juste, tu es injuste. On ne peut pas dire à quelqu'un de fort, tu es faible. Car le fort a toujours une possibilité, c'est de manifester sa force.
Il peut nous mettre
voilà,
son poing à la figure.
Exactement. Voilà. Et là, on verra bien qui est fort. Alors que le juste, qui est authentiquement juste, et Pascal ne relativise pas du tout la notion de justice. Il ne dit pas...
Elle
est d'un autre ordre et elle ne peut pas servir de référence de référence aussi référentielle, si vous m'autorisez. On ne peut pas se fonder sur la justice de la même manière qu'on peut se fonder sur la force. Car la force, on saura toujours où elle est, et la justice, il y aura toujours... C'est l'expression de Pascal hein, dans ce texte, il y a toujours des méchants. Il y a toujours des gens qui vont dire au juste, tu es injuste. Et qu'est-ce que le juste répond quand on lui dit « tu es injuste » ben, il peut dire « non, c'est pas vrai, je suis juste ». Mais il n'aura rien d'autre à dire. Et ça sera sa parole contre la mienne. Et donc, Pascal est très sensible, et ça c'est un aspect qui m'impressionne, et qui est difficile à imaginer, parce qu'il ne faut pas le penser en termes de cynisme. Hein. Il est très sensible à la, on pourrait dire, à la robustesse des qualités. Au fait qu'on peut ou non les utiliser. Et donc, le sentiment n'est pas robuste, de ce point de vue-là. On peut difficilement se référer au sentiment. Et pourtant, il est parfait. On pourrait dire que la justice n'est pas robuste en ce monde.
Qu'il y aurait même une sorte de providence à ce que ce sentiment, que cette justice soit désarmée. On pense au Christ, finalement, qui s'expose. Et oui. Qui s'expose précisément aux méchants. Il y a vraiment, dans ce que vous dites sur le sentiment, oui. Voilà, c'est que je ne peux pas le démontrer, je ne peux pas l'asséner d'en haut, oui. Mais c'est ça, d'une certaine façon, oui. Qui fait que je suis aussi vraiment en train de suivre le Christ, voilà. Qui a fait la même chose.
Voilà. Et là, vous citiez tout à l'heure rapidement un texte que je voudrais lire un petit peu plus en détail, oui. parce que c'est un texte moins souvent cité que certains d'autres auxquels on faisait allusion, et qui est un texte très troublant. C'est parmi les premiers textes que Pascal a écrit dans les Pensées. Il porte le numéro 425 chez Philippe Sellier. Il dit la chose suivante. « Ce n'est point ici le pays de la vérité. Elle erre inconnue parmi les hommes. Dieu l'a couverte d'un voile qui la laisse méconnaître à ceux qui n'entendent pas sa voix. Le lieu est ouvert au blasphème. Et même sur des vérités au moins bien apparentes. » Donc, cette idée que le lieu est ouvert au blasphème.
Dieu se laisse méconnaître.
Voilà, Dieu se
c'est
laisse
extraordinaire.
Méconnaître.
Voilà, c'est un acte, une permission divine au
voilà,
moins.
Ce texte est étonnant et il faut comprendre tout le scandale que ça représente pour Pascal, que le lieu soit ouvert au blasphème. Hein. Et même sur des vérités au moins bien apparentes, si l'on publie les vérités de l'Évangile, on en publie le contraire. Et on obscurcit les questions en sorte que le peuple ne peut discerner. Donc, il est toujours possible de dire « Jésus est un imposteur, Dieu est un salaud ». Phrase qui, pour Pascal, est inouïe, Parce que normalement, la Terre devrait s'arrêter de tourner. Mmh. Enfin, si que quelqu'un puisse dire ça, brusquement, ça devrait être la fin du monde. Car c'est aller d'un seul coup à l'inverse même de la vérité. Comment est-il possible que la vérité puisse être à ce point travestie dans notre monde? Et ça, c'est un scandale absolu pour Pascal qui demande à être pensé. Le blasphème est quelque chose d'inouï, de terrifiant. Et donc Pascal est obligé de comprendre qu'on est dans un lieu ouvert au blasphème. Un lieu qui permet à la vérité d'être méconnue. Ce qui organise un autre régime du sens, un régime étrange, hein, où la vérité ne s'impose pas par elle-même. Et pourtant, il y a une vérité. Quand le Christ dit qu'il est la vérité, il dit le fond de la question pour Pascal. Il n'y a pas à aller plus loin.
Mais est-ce que justement, ce n'est pas la vérité qui est démonstrative, voilà. c'est une personne qui vient. Voilà. Est-ce que, à travers ce que vous dites, parce que je pense forcément à ce passage de la première aux Corinthiens, où Saint Paul oppose un langage qui est celui de la sagesse des hommes, donc celui de la philosophie, et de l'autre côté, le langage de la croix. C'est-à-dire oui. que vraiment, que la foi ne puisse pas s'exposer par des raisons démonstratives, qu'on puisse toujours la contester, c'est précisément le lieu même du langage de la croix, puisque c'est un langage où je suis exposé à la contestation jusqu'à même être crucifié.
Voilà, c'est très précisément la référence que prend Pascal quand il cite même Corinthiens en latin comme conclusion d'une pensée. Il ne faut pas que la croix du Christ soit évacuée. C'est-à-dire qu'il faut que nous réussissions à faire aller de pair une foi qui repose sur une satisfaction de l'esprit, satisfaction des raisons, contentement du corps, qui soit inscrite dans notre corps, mais qui est quand même le résultat d'une forme de crucifixion. Hein. Alors Pascal parle à cette occasion-là d'inspiration. Hein. Il faut s'ouvrir aux preuves par l'inspiration, et cette inspiration, c'est l'action de la grâce. Donc il a essayé de penser, et ça je crois que c'est un point important dans son anthropologie, il a essayé de penser un homme complet, un homme dans toutes ses composantes, un homme qui est à la fois âme, corps et esprit, et il a essayé de penser une religion qui serait telle qu'elle comblerait ces trois composantes de l'homme. Mais une religion à laquelle on accède par l'inspiration, par la croix, on ne peut pas trouver sans risque, sans anéantissement, sans appel spécifique, sans rencontre.
Alors, vous avez parlé du corps ici. Qu'en est-il du corps chez Pascal? Qu'en est-il même du corps de Pascal? Parce qu'on a l'impression que justement, on est dans une manière d'accéder à Dieu où il y a anéantissement, il y a croix. C'est pas la voie d'un éros qui nous tournerait vers l'autre de manière extatique, jubilatoire. Je pense notamment à ce que dit sa petite sœur Gilberte à propos de son grand frère.
Sa grande sœur.
Sa grande sœur, pardon, Gilberte. Elle dit la chose suivante, « Si je disais quelquefois par occasion que j'avais vu une belle femme, ouais. il se fâchait et me disait qu'il ne fallait pas tenir ses discours devant des laquais et des jeunes gens parce que je ne savais pas quelle pensée, alors oui, on retrouve la pensée ouais. ici, ouais. Hein, je pouvais exciter en eux. Ouais. » Alors c'est étonnant, à la fois cette phrase a l'air d'être celle d'un grand puritain ouais. qui récuse vraiment toute possibilité d'accès au mystère de Dieu par la beauté des femmes, et ouais. en même temps, c'est la pensée d'un homme qui reconnaît à la beauté des femmes un pouvoir extraordinaire, c'est-à-dire que par la simple évocation qu'en ferait une autre femme, Gilbert, de les exciter au point de produire des effets extraordinaires. Alors, qu'en est-il de Pascal et des femmes de Pascal et de l'éros, du corps de Pascal, dans ce sens-là ?
Ouais. Y a un autre, vous auriez pu citer un autre passage aussi de... Il faut que je me dépêche, mais un autre passage de la vie racontée par Gilberte, où elle, qui a beaucoup nuit à l'image qu'on se fait de Pascal, où il s'agit cette fois de nourriture, Pascal étant obligé de consommer des mets un peu de choix compte tenu de son état de santé, se forçait à ne pas les goûter pour ne pas tomber dans une espèce de plaisir physique. Alors, que dire ? sur les femmes de Pascal. Dire d'abord que au XIXe siècle, on aurait beaucoup aimé que Pascal fût un grand amoureux. Alors on avait trouvé ce discours sur les passions de l'amour, qui est un texte strictement non pascalien, qu'on a coûte que coûte, à l'époque de Victor Cousin, voulu rattacher à Pascal. On a voulu aussi, à un moment, il s'était chargé de la direction de Charlotte de Rouanet, direction de très très belles lettres, qui sont vraiment parmi des textes de Pascal à lire, hein, notamment la très grande lettre que vous connaissez sûrement sur le Dieu caché, qui est dans une des lettres à Charlotte de Rouanet. Et donc on a voulu imaginer des aventures entre Charlotte de Rouanet et Pascal.
Abélard et Héloïse, il fallait que ce
voilà,
soit ça.
Voilà, voilà. Alors, que répondre ? Un texte des pensées sur la beauté poétique, où Pascal s'interroge sur la beauté et prend l'idée d'une femme, en disant « on sait très bien ce que c'est qu'une belle femme ». Et donc, il utilise la femme comme modèle pour comprendre ce qui est beau. Transformer un sonnet en une femme, et voyez ce que serait ce sonnet si c'était une femme. C'est une espèce de portrait chinois. Et là, vous voyez très bien ce que c'est que cette beauté. Alors, voilà un cas où Pascal parle de la beauté féminine. Bon, qu'il y ait du puritanisme chez Pascal, c'est pas exclure totalement, hein, qu'il y ait une espèce de refus, peut-être légèrement maladif, de ce que son maître Saint-Augustin appelait la libido sentiendi, c'est possible. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que dans les pensées, le corps en tant que tel joue un grand rôle. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse être un homme sans corps, qu'on puisse croire indépendamment de notre corps, qu'on puisse, par exemple, être un peu angélique, ne pas se plier à des contraintes qui sont des contraintes des contraintes liturgiques, qu'on puisse refuser à ce point la superstition, ça serait de la superbe. Et donc Pascal essaye de penser à un état de religion entre la superbe et la superstition qui laisse une place au corps. Donc c'est une question complexe. Hein.
Alors vous pensez, bon, la phrase très célèbre, hein, l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. C'est-à-dire négliger finalement l'aspect corporel de l'homme, ce serait un angélisme qui nous ferait tourner vers une forme de bestialité spiritualiste, mais bestiale malgré tout dans la modalité. Mais il y a un autre aspect de Pascal, c'est qu'on a même parfois l'impression que le corps est en avance spirituelle sur l'esprit lui-même. Il y a quand même ce passage très fameux, enfin je m'en souviens plus exactement, où il dit qu'on se mette dans la position pour prier, quoi, d'une certaine façon, avec son corps, qu'on s'agenouille, qu'on joigne les mains, et en gros ça va venir.
Voilà. Abêtissez-vous, c'est la fin du pari, hein, c'est la fin du fragment 680. C'est un texte que Port-Royal s'était bien gardé d'éditer, qui faisait très peur à Port-Royal. Et quand Victor Cousin a retrouvé ce texte, donc au milieu du XIXe siècle, au moment où Victor Cousin a dit « il faut se référer au manuscrit pascalien », Victor Cousin, qui détestait en réalité Pascal, et pour qui revenir à l'authenticité du texte pascalien, c'est en finir enfin avec Pascal, qui pour lui était une sorte de sceptique fidéiste insupportable, anti-philosophe, et Victor Cousin déniche avec jubilation ce « abêtissez-vous » en disant « voilà ce que c'est que la philosophie de Pascal, c'est l'invitation à se faire une bête, voilà ce que sont en fait les chrétiens, c'est des ennemis de la pensée ». Et en réalité, alors après ce texte a fait couler de l'encre, il a pendant longtemps eu un article de Gilson sur le sens d'abêtissez-vous. Il est très intéressant parce qu'il nous montre, je crois, deux choses. Il nous montre à la fois la nécessité d'incorporer nos croyances, qu'on ne peut pas croire indépendamment d'un corps, et il nous montre aussi la nécessité d'une humiliation, d'un abaissement, de ne pas se mettre dans une position de surplomb, d'une forme d'abandon. Et ça, c'est une relecture qui a été faite récemment et qui permettrait peut-être de mettre en rapport l'abêtissement avec l'humilité de la Vierge. Il dit, il a regardé, hein, l'humilité de sa servante. Donc cet abêtissement, c'est accepter de se mettre en dessous. C'est non seulement s'abaisser corporellement, c'est pas seulement se transformer en bête, c'est se déprendre. ce serait la condition d'une survenue de Dieu.
Ce serait encore une manière de sortir d'une intelligence qui serait trop conceptuelle ou abstraite de telle sorte qu'elle n'est plus en contact avec l'existence, c'est-à-dire avec finalement oui. le mouvement de l'espérance qui est dans tous les cœurs et de la retrouver même au niveau du corps finalement.
Oui, entièrement.
Merci Laurent. Je renvoie en tout cas nos auditeurs à votre dernier livre que j'ai commencé et que je trouve remarquable, Pascal ou le défaut de la méthode, lecture des pensées selon leur ordre. C'était Entre nous soit dit, une émission présentée par Fabrice Adjadj avec Laurent Thirouin et toujours à la technique, la silencieuse et incontournable Marlène Caron. Merci et à bientôt.